7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 8h43 et 59 secondes. Dans un autre temps, nous aurions dit 9h moins le quart. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'écouter Ligne Droite. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous écouter sur YouTube et sur X en direct. Dans 10 minutes, il y aura l'analyse de Xavier Aimant où nous parlerons des victoires de la musique et autrement dit les victoires du bon goût. Mais tout de suite, la chronique de Maximilien Frisch qui va nous parler de littérature contemporaine.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, c'est avec Maximilien Frisch. Bonjour Maximilien.
Bonjour Richard.
Vous êtes directeur littéraire des éditions Nouvelle Marge et animateur de la revue en ligne Mauvaise Nouvelle. Et vous venez nous parler de littérature contemporaine.
Exactement, littérature contemporaine. Et aujourd'hui, au menu du jour, une fable, un conte et une dystopie. Sachant qu'on retrouve la fable, le conte et la dystopie dans les trois livres en fait. Alors on va commencer par un livre des éditions de Flore. On n'en a jamais parlé des éditions de Flore ici. Et c'est quand même des éditions qui nous sont chères. Et ce livre s'intitule « Le ministère de l'ordre moral ». C'est un roman donc dystopique qui a une telle proximité avec notre société présente que l'on ne doute pas une seule seconde d'y lire l'avenir de la France. La publication de ce roman s'est faite après la mort de son auteur, Maxime Tandonnet, les feuillets ayant été découverts par la famille, de l'éditeur, la famille et l'éditeur, tel que le raconte le fils Thibaut Tandonnet dans son avant-propos. Alors nous sommes donc plongés dans la même société que la nôtre, la même. Là même, juste un peu plus loin dans la chute. Grand déclassement, dégradation des services publics, wokisme à tous les étages, culture de mort comme unique valeur refuge, communautarisme séparatiste, plutocratie, recul de la démocratie, abrutissement des masses, masses médias globaux, guerre civile à moyen, gros bruit, libanisation, tout y est comme aujourd'hui, mais en pire.
Je voudrais juste préciser que Maxime Tandonnet était un homme politique français et notamment le conseiller immigration de Nicolas Sarkozy. Autrement dit, il nous décrit quelque chose qu'il a vécu de l'intérieur, mais je vous laisse continuer.
Exactement, c'est pour ça que c'est précieux. Et là, c'est mis en roman et c'est absolument passionnant. Alors, cette France imaginée hein, est tout à fait reconnaissable comme suite logique et immédiate de la nôtre. Et à sa tête, on a qui ? Pitronneau. Un dingue, une version actualisée, bien sûr, de Macron. Et la mission que s'est donnée le dingue est simplement d'accompagner une destruction inscrite dans les lois de l'histoire et d'anticiper sur le nouveau monde. Insatiable bavard, autoritaire, égocentrique, exubérant, vaniteux, caractériel, Pitronneau, le prince d'un monde qui se rétrécit, la France, est un tentateur. « Je vais te nommer ministre de l'ordre moral, dit-il au héros de ce roman, Lambert. Voilà le piège. Comment cet être ordinaire, englué dans ce décor qui est marasme, peut-il faire émerger sa singularité ? Comment sortir du grand tout ? S'il accepte facilement la flatterie hein, du vieil ami Pitronneau, c'est que Lambert ne s'est jamais départi depuis l'enfance d'une sorte de dégoût et de mépris de lui-même. La flatterie seule ne pourrait rien s'il n'y avait pas eu en plus la bien nommée pervitine, cette drogue des gens du pouvoir. Cette dernière permet la métamorphose de l'introverti en zombie infatigable et dominateur. Alors les conséquences hein, sont de développer des troubles bipolaires, bien sûr, de tout gâcher, hein, sa vie, celle de ses proches, sa femme. Pendant ce temps, elle a le tort de rester la même, catholique qui plus est, envahie de pensées et d'idées qui puent la moisissure et la réaction. L'homme et la femme s'éloignent insensiblement et pour y remédier, Lambert a la très mauvaise idée de traîner sa femme vers une sorte de gourou sexuel censé les faire renouer avec la passion charnelle de leur début. Sauf que quoi ? Bah, sa femme se sent terriblement humiliée d'avoir participé aux ébats prescrits. Sauf que... Le gourou en question ayant reconnu le futur ministre de l'ordre moral est décidé à rendre publique la vidéo compromettante. Donc voilà le moment où tout bascule. Lambert avait rêvé de gloire et de paradis, récolte enfer et humiliation. La vie publique est un piège depuis le début puisque la société est une farce en plein chaos. Et c'est là que Maxime Tandonnet révèle son intention au travers de ce roman, faire une allégorie du mariage et de l'amour inconditionnel. Pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas ? Et qu'y a-t-il de pire que l'humiliation publique ? C'est donc bien là la grande épreuve du couple. Lambert se sent coupable, ce qui lui permet de redevenir honnête, humain, incarné et capable d'actes concrets. Voilà le retour du bien et du mal, de la vie intérieure, du combat spirituel. Le décor sociétal est grotesque, mais la singularité est encore possible. La tragédie peut commencer. La mort, le crime, sont toujours les coups de grâce ultime, hein, prévus par Dieu pour le retour de sa créature dans son sein, pour sa conversion définitive. Et Justine et Lambert apparaissent finalement dans leur fragilité comme un défi au grand tout, la marque d'une liberté irréfragable. Ils sont les détenteurs des oripeaux de l'humanité, ayant perdu toute verticalité, tout sens tragique. Ce roman de Maxime Tandonnet a réjoui à la fois pour sa satire politique, hein, on l'a dit au début, voilà la suite de notre histoire, et pour l'histoire singulière du couple. Le ministère de l'ordre moral est une fable à plusieurs tiroirs. Il est aussi une invitation à trouver son propre ermitage pour échapper à toute l'écume de l'actualité qui voudrait nous réduire au statut du gloseur. Alors, le ministère de l'ordre moral, Maxime Tandonnet, édition de Flore, 198 pages, 15 euros, je vous le recommande. C'est mon premier choix du jour.
Merci.
Deuxième choix, c'est un conte. Je vous ai promis une fable, maintenant un conte. Il est signé Hélène Raveau. Elle nous conte une vie au bord de l'abîme avec un livre qui est intitulé Syzygie. S-I-Z-Y-G-I-E. En astronomie, une syzygie est une situation où trois objets célestes ou plus sont en conjonction ou en opposition. Et les marées des syzygies, lorsque l'attraction du Soleil se conjugue à celle de la Lune, peuvent être très très fortes. Hein. Donc il arrive que l'on fantasme sur le déluge, hein, juste pour noyer son chagrin. Eh bien c'est ça avec Syzygie. Avec Syzygie, Hélène Raveau se fait conteuse d'une légende. Syzygie est le nom donné à une grande demeure familiale, juchée tout en haut d'une falaise, suspendue à l'aplomb du vide. Elle est donc en sursis, comme un navire sur les gouffres. Jusqu'ici tout va bien, hein, dit-on dans la chute. Le narrateur accepte l'invitation d'un ancien camarade d'études, Patrice Saint-Léger, à venir passer quelques jours en famille, côte d'Albâtre, souvenirs de famille, souvenirs de villégiature mondaine, souvenirs de grands styles faits de conversation, d'esprit de bonne tenue, etc. Le narrateur se réjouit de ses retrouvailles amicales sans vraiment comprendre son élection. Dans cette maison, tout lui est étranger car tout est étrange. La singulière famille est composée juste d'un frère et d'une sœur, d'un piano et d'un cortège de fantômes. La place du pianiste était la place névralgique non seulement de la pièce mais de toute la maison. La sœur joue la pièce inachevée écrite par le frère et les fantômes remplissent les salons et la table à manger pour faire comme avant. À la belle époque, comme si rien n'avait changé. Patrice emmène son ami sur la ligne de front, là où la mer arrache des pierres à la falaise tout en les repoussant à ses pieds comme pour ralentir son travail de sape. Patrice lance des défis énigmatiques et le narrateur confie « Nous étions deux officiers lancés contre les forces invisibles du haut de nos fronts ceints à la visière de l'honneur. Nous découvrions le décor où se jouerait le drame. » Mais ce n'est pas un jeu, c'est la narration dans laquelle le frère et la sœur ont décidé de vivre. Et si Patrice chérit ce flirt permanent avec la faucheuse, c'est qu'il est rescapé de son propre suicide. Le narrateur apprend que Patrice avait voulu mettre fin à ses jours au temps de leur jeunesse et y avait renoncé à cause des paroles prononcées ce jour-là. Voilà donc la raison de son invitation, de l'élection du narrateur par l'étrange famille, lui et son enthousiasme pour le cosmos. Mais alors, pourquoi décider de vivre au bord de l'abîme, de chérir l'agonie comme le climax de la vie, de stagner à la porte du désir sans jamais rien consommer? Nous apprenons que parmi les fantômes de la maison, il y avait un enfant, sans doute la clé de l'énigme du drame familial, dont cette demeure vide est le témoin. Syzygie, comme une formule magique finalement, hein. Toute tragédie s'écrit sous la dictée d'une prophétie qui est malédiction. Et le frère et la sœur savent qu'ils n'ont pas le choix. Le suicide serait collectif, mêlé au suicide des falaises, soumises au bon vouloir de la mer et de l'alignement des astres. Avec Syzygie, Hélène Raveau confirme son talent pour faire advenir contes et légendes dans notre contemporanéité. Syzygie, roman donc d'Hélène Raveau, édition Ovadia, et donc 122 pages, 16 euros, je vous le recommande également.
J'espère bien que vous nous recommandez, après avoir fait un tel éloge. Voilà, Hélène Raveau, nous l'avions reçue sur Radio Courtoisie l'année dernière pour un autre de ses romans.
Et oui.
Voilà. Alors, dernière fable, dernière dystopie.
Tantième, un monde sans puce. Jean-Pierre Noté qui nous offre une espèce de thriller numérique d'une grande efficacité. Autant le dire tout de suite, nous attendons avec impatience son adaptation à Hollywood. Carrément, parce que si le frisson est immédiat et permanent jusqu'à la fin du livre, c'est que l'on se sent, on sent tellement que tout ça est possible. Ça, c'est quoi ça? Bah oui, la domination du monde par le maître d'un empire numérique grâce à l'intelligence artificielle. Pour ce faire, la solution est bien évidemment de s'approprier les langues du monde. Depuis Orwell, on sait que le langage est le refuge intime de la liberté de l'homme. Alors, pour convaincre tout le monde de l'intérêt de posséder les langues, il suffit, comme toujours, de proposer des lendemains qui chantent. C'est quand même extraordinaire de dépasser la barrière de la langue, n'est-ce pas? D'offrir la culture et l'éducation à tous, par-delà toutes les frontières visibles et invisibles. Et pour Mike Konakis, dit 3K, la solution est d'affilier sa bien nommée entreprise Babel à une pépite toulousaine championne de l'IA en France, Time Expert, dirigée par la brillante Aline. Aline aime relever les défis, c'est une winneuse. La vie n'est pour elle qu'une succession de business plans, n'est-ce pas? Elle va donc déchanter. Et le projet se traduit par l'idée qui nous paraît d'abord impensable, puis effrayante, et puis tout à fait réaliste, de convaincre le gouvernement français de leur vendre l'Académie française, tout de même. Le grain de sable dans tout ça s'appelle Simon, il possède la loge de gardien du prestigieux hôtel particulier toulousain Le Vieux Raisin. Il ne possède que quelques tantièmes, le nom du roman, et résiste sans faillir à toutes les tentatives d'intimidation et d'achat de sa voisine qui possède tout le reste. Peu à peu, ce couple aux antipodes va se rapprocher et Simon va devenir comme la conscience externe d'Aline, le Jiminy Cricket. Simon est prof de lettres, hermétique à la numérisation de la vie et à la réduction des rapports à la circulation des données, bien sûr. Hein, il refuse d'alimenter tout ça. Il est, en fait, Simon la gêne avec ses reproches. Le doute, c'était l'ennemi et Simon était porteur de doute. Et ben Jean-Pierre Nauté nous décrit parfaitement les évolutions d'Aline petit à petit, le travail de sa conscience, son retournement. Nous sommes tenus en haleine, on y croise tous les académiciens du moment, hein, dont l'insurgé Alain Cali-Kruntel. Qui allait très bien sûr.
Les noms sont absolument remarquables.
J'adore. Donc, bien sûr, Finkielkraut, ce qui va se jouer devant nous est non pas une guerre des mondes, mais une guerre des intelligences artificielles entre elles. Les algorithmes s'entrechoquent, le réel est une vue de l'esprit, l'enjeu est l'existence d'un monde libre maintenant que nous avons créé le démiurge, hein, souligne Finkielkraut de service. Si la manipulation à l'échelle globale est prouvée, la question posée par des millions d'êtres qui se réveillent et refuse de se greffer une puce. Un monde sans puce est-il possible? Les deux camps sont-ils à armes égales? L'intelligence humaine peut-elle continuer d'avoir le dessus? C'est toutes ces questions que pose ce livre. Et ce livre d'anticipation nous laisse forcément inquiets, hein, tant cet avenir semble à nos portes et déjà là. Et il me vient à songer parfois que l'élimination de tous les Elon Musk de la Terre serait peut-être encore le meilleur moyen de garantir la survie de l'espèce, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Nous refermons tantième en nourrissant la folle espérance d'un monde libre, d'être libre, capable d'attacher, de s'attacher les uns aux autres, sans recours aux puces surtout. Donc tantième, un monde sans puces, ASANSPU2S, roman de Jean-Pierre Nauté, et c'est Hasard, Atelier Édition, AZ'R, 206 pages, et c'est un livre de 2023 parce que la littérature contemporaine n'a pas que 6 mois, elle peut avoir plusieurs
années. Elle peut avoir 2 ans, très bien. Merci mille fois Maximilien Frisch. Juste une seconde, vous venez de sortir dans vos éditions un hors-série dont il faut que vous nous disiez un mot en une seconde.
Ah oui, alors hors-série sur Maurice Gédantec, ça fait 10 ans qu'il est mort et nous, la génération, on s'est levé pour lui rendre hommage cette année. J'en ai parlé mercredi dans Restons Courtois, mais je compte bien en reparler dans cette antenne.
Voilà, puisqu'on parle de dystopie, parlons de Maurice Gédantec. Merci beaucoup Maximilien Frisch et à très bientôt.
Ligne droite, l'analyse.
Et cette analyse, ce sera avec Xavier Aimant, écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonjour Xavier.
Bonjour, pardon,
c'est parfait, voilà, bel enchaînement. Vous avez décidé de nous parler, j'espère, des victoires de la musique, car ça a été un moment français.
Un grand moment, oui, tout à fait. Alors, en cette fin de semaine, c'était un peu pour nous extraire de l'actualité qui est particulièrement lourde et tragique. Et je voulais donc revenir, en effet, sur ce grand événement culturel qui rassemble la fine fleur de la création musicale hexagonale, à savoir donc les victoires de la musique. Alors, en effet, tous les auditeurs de Radio Courtoisie n'ont peut-être pas suivi cette 41e édition des victoires de la musique, qui s'est donc tenue le 13 février dernier, à la scène musicale et qui a été diffusée sur France 2. Alors c'est la rappeuse Théodora qui a été la grande triomphatrice de cette soirée avec pas moins de 4 trophées. Révélation féminine, révélation scène, album de l'année pour Mega BBL et meilleure création audiovisuelle pour Fashion Designa. Un titre que fredonne souvent Richard de Sèze dans les studios de Radio Courtoisie.
Absolument.
Et dont je vais quand même vous livrer un extrait pour ceux qui n'aurait pas la chance de connaître. Alors allons-y, voici donc un extrait de ce qui est considéré comme le tube de l'année. Alors je vais juste le lire, je vais m'abstenir de rapper, je suis pas très très bon dans le flow. Donc allons-y. C'est moi, Boss Lady, j'ai tout payé, nos crédits. Trop congolaise quand je ride cette D. Boukri, vas-y Afriki, friki. C'est moi, Boss Lady, j'ai tout payé, nos crédits. Donc ça, c'est un couplet.
Bah merci.
Voilà, mais on passe ensuite au refrain. Parce que le refrain, c'est un peu le summum de l'œuvre.
C'est ce qui permet de mémoriser l'œuvre.
Voilà, exactement. Donc retenez bien. C'est pas facile, je vous le préviens. En tchouk tchouk, tchoukou tchoukou tchou. Lui, il veut tchoukou tchoukou tchou. Lui, dans la caisse, juste à l'arrière, pour qu'on fait tchoukou tchoukou tchou. Lui, il veut tchoukou tchoukou tchou. Lui, il veut tchoukou tchoukou tchou. Lui, dans la caisse, juste à l'arrière, pour qu'on fait tchoukou tchoukou tchou. Lui, il veut.
Tchoukou tchoukou tchou. Je tiens à dire qu'elle a remercié Aya Nakamura dans son discours et qu'on le comprend mieux.
Pour l'inspiration. Alors justement, Richard, je voulais que vous éclairiez un peu nos auditeurs qui n'auraient pas compris ce que signifie tchoukou tchoukou tchou.
J'avoue être un peu...
Dubitatif.
Oui,
voilà. Eh ben, écoutez, s'il y a des auditeurs qui ont des suggestions, qu'ils n'hésitent pas à les faire. Alors quand même, pour information... Cette chanson, donc, c'est 16,9 millions de vues sur YouTube et plus de 60 millions de streams, donc d'écoutes en ligne. Donc, quand même, en effet,
oui, c'est un succès.
Un grand succès. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que depuis le temps qu'on nous promet l'arrivée massive des nouveaux Victor Hugo et des nouveaux Baudelaire, il semble qu'on y soit enfin. Alors, une autre artiste, Elena, a, elle, empoché le prix de la meilleure chanson originale pour « Mauvais garçon ». Alors là, c'est un autre genre. Hein. On est plutôt dans la dissertation de première aile rédigée par une lycéenne dépressive. Voici un autre extrait. « Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sers à rien, qu'il est jamais heureux avec moi. » Et le refrain. « Mauvais garçon tire les fils, et c'est moi le pantin. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un « Voilà. Alors là, tout y est. Relation toxique avec un pervers narcissique. Ambiance néo-féminisme victimaire et écriture de journal intime d'ado à prétention sociétale. Alors du côté masculin, c'est Disease, anciennement Disease la peste, qui remporte le trophée du meilleur interprète.
Donc Disease, maladie en anglais.
Disease, voilà. Oui, alors ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est oui, on peut l'interpréter comme ça, en effet. Qui remporte donc le trophée, et le jeune Sam Sauvage, qui empoche celui de Révélation masculine. Alors, on notera, c'est assez intéressant d'ailleurs, que ce dernier, la Sam Sauvage, a subi, suite à cette victoire, une invraisemblable campagne de haine sur les réseaux dits sociaux. Il a subi un véritable tombereau d'injures et même de menaces. Alors, est-ce que ce mouvement de haine qu'il a suscité est causé par le fait qu'il s'agisse d'un petit blanc, né dans le Nord-Pas-de-Calais, portant un costume et ne faisant pas de rap, et ayant même été préféré justement à deux éminents rappeurs, L2B, que vous connaissez bien, je crois, et Ino Casablanca. On ose évidemment y croire, le racisme anti-blanc étant, comme chacun sait, un fantasme pathologique de l'extrême droite. Mais cependant, pour se rendre bien compte du scandale représenté par cette victoire donc de Sam Sauvage, jugé totalement indu par les amateurs de rap, voici un nouvel extrait, cette fois de Pélican. Pélican qui est donc le principal tube de L2B, l'un des deux candidats malheureux. Alors là, pour le coup, il faut éloigner un petit peu les enfants du poste. Voici l'extrait. C'est la Pouchka, mon pote. Chercher, bon qu'à chercher le papier tous les jours, c'est pour papa, faut le château. Je sais même plus si je suis dans une chatte ou dans une fontaine à eau, mais il me faut un bateau. Je compte plus les fils enlevés de mes survettes. J'ai tout fait pour gagner mes sous honnêtement. On va tout donner. Jusqu'à quand? Je prends mon envol comme un petit pélican. Alors là, c'est assez poétique, ça, quand même.
Ben oui.
Quitter le camp, hache fou le camp. Traîner, zoner, dis-moi jusqu'à quand. Traîner, zoner, dis-moi jusqu'à quand. Voilà, donc ça, c'est ce qui aurait dû gagner le prix selon les amateurs de rap. Donc voilà un peu un résumé de cette soirée des victoires de la musique. Alors la pauvre Nana Mouskouri, qui a reçu pour sa part une victoire d'honneur, a quand même dû un peu se demander ce qu'elle faisait au milieu de tout ça. Alors je sais bien que critiquer ainsi la chanson contemporaine, cela fait un peu vieux boomer aigri, chaque génération ayant navré la précédente par ses choix musicaux, depuis les yéyés jusqu'au grunge. Mais là tout de même, on pourra quand même, j'espère, m'accorder le fait que l'on peut légitimement penser que comme le chantait jadis Isabelle Adjani sur des paroles et une musique de Serge Gainsbourg, on a vraiment touché le fond de la piscine.
Tchoucou, tchoucou, tchou. C'était Pull Bleu Marine ou je sais pas quoi.
C'est ça.
Un clip de Luc Besson, si je ne m'abuse.
Exactement.
Mais voilà, à propos de Boomer, ouais, je me souviens
des
clips de Luc Besson pour Isabelle Adjani.
Vous avez la ref, comme on dit.
Voilà, comme disent les jeunes. Merci mille fois, Xavier, de nous avoir éclairé sur les victoires de la musique. J'ai eu la curiosité, puisque vous m'avez proposé ce sujet, de me ruer sur la biographie officielle de Théodora. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qu'en dit son producteur. Elle se fait connaître en 2023 avec le diptyque composé de deux hippies, Lily au paradis artificiel et Lily au paradis artificiel tome 2.
Voilà, bon. Il y avait de la matière.
Mais oui, qui lui vaut d'être nommé aux flammes de la musique dans la catégorie révélation féminine. Après les singles Daddy Chocolat et Le Paradis se trouve dans le 93, Congolaise sous BBL se transforme en hit viral sur les plateformes d'écoute et signe l'entrée de Théora dans le classement de la Snap. Le morceau, empreint de rythme caribéen, zouk, calypso, mêlé à son flow rap, devient le titre signature de Théodora qui poursuit ses mélanges rythmés dans l'album Bad Boy Love Story qui entre à la 119e place du classement français. Et ainsi ça continue avec effectivement le fait qu'accompagné de son frère, manager et compositeur Jeez Suave, Théodora puise son inspiration dans la pluralité musicale en mélangeant rap, musique électronique, R&B et des inspirations de leur jeunesse, Fali Ipupa, Indila. Voilà, Théodora a à cœur de combiner son univers et son histoire. Elle peut aussi bien porter des vêtements achetés au marché de Saint-Denis que le dernier créateur cool du moment, tant qu'il respecte ses valeurs.
C'est beau.
Cette jeune femme est admirable. On ne parle plus du tout de cette dame qui était absolument admirable, en légère surcharge pondérale, et qui était censée être, elle aussi, une espèce de révélation admirable des victoires de la musique.
Isolde. Oui. Ah, ben, c'est la génération un peu plus âgée, donc il faut...
Elle avait 3-4 ans de plus, donc ça y est, elle est...
Voilà, elle doit être déjà à moitié, je suppose. Voilà.
Passez-moi le crochet mode, à noble.
Passez de mode. C'est assez amusant, parce qu'en plus, cette Théodora est présentée comme une icône du féminisme. Alors que si vous avez la curiosité d'aller encore plus loin dans vos recherches et de regarder les clips vidéo, quand on parle de sexualisation du corps de la femme, là on est quand même aussi plein dedans, ça parle que d'argent, de faire du bis, de faire de l'argent, d'aller dans les boîtes de nuit, d'avoir des relations éphémères, mais comme c'est elle qui choisit, ça, dans ce sens-là c'est bien, il faut le promouvoir.
Donc c'est
un univers quand même très particulier du féminisme, si je puis dire, mais en tout cas ça fonctionne, et ça fonctionne à tel point, là je vous ai donné les chiffres, que c'est vraiment... un vrai phénomène de mode, en tout cas sur les réseaux sociaux et en termes d'écoute en ligne, puisque plus personne désormais n'achète de disques, mais en termes de streaming, donc d'écoute en ligne, c'est tout à fait colossal.
Alors, c'est colossal, et voilà, elle explose en 2023, elle est consacrée début 2026, elle sera oubliée en 2028, comme Isolde et comme toutes les autres qui l'ont précédée. Il n'y a qu'Aya Nakamura qui continue à porter haut et fort la flamme des sonorités afro-caribéennes. Je cite Théodora, hein, puisqu'elle a remercié Aya Nakamura et Tiakola qui ont permis à mon projet, avec des sonorités afro-caribéennes, d'être mieux compris. J'aime beaucoup la manière dont elles apprennent par cœur les communiqués de presse et pour les réciter dans leurs remerciements. Est-ce que vous êtes un familier de la série South Park ?
Oui, tout à fait, oui.
Alors, quand je vois ces victoires de la musique, ça me fait irrésistiblement penser...
Ah, pourrait faire un bel épisode, oui.
Et notamment, c'est l'épisode où ils expliquent que les jeunes chanteuses qui sont repérées par Disney et qui font des chansons sucrées et qui après deviennent des icônes hypersexualisées avant de tomber dans un trou, sont en fait sacrifiées à un culte de la prospérité, de la fécondité agricole. Et donc on a besoin régulièrement de mettre sur le devant de la scène des noms qu'on a déjà oubliés, voilà, Britney Spears
Cyrus, c'est un peu ça. Et je crains même qu'en plus dans cet univers ce soit même parfois plus grave que ça, puisqu'il y a aussi derrière tout ça des phénomènes qu'on commence à évoquer, d'exploitation sexuelle. Ce sont des jeunes filles qui certaines sont complètement brisées par ce milieu qui les exploite depuis très jeunes, et qui en effet leur fait passer plusieurs phases. Quand elles sont trop jeunes pour être sexualisées, on leur fait chanter des chansons de Walt Disney, après on les sexualise de façon tout à fait obscène, et ensuite on les laisse tomber, et très peu arrivent à survivre et à mener des carrières, on va dire, sur le long terme. Britney Spears, elle a eu une carrière assez longue, elle est peut-être pas encore totalement disparue, mais on a vu qu'elle a eu quand même des problèmes très lourds personnels, elle a été dépressive, etc. C'est un milieu qui est quand même très 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 malsain.
Alors, c'est un milieu malsain, c'est un milieu qui est consacré. Les 41e victoires de la musique, c'est un peu un rappel de Jack Lang aussi. Je crois qu'il n'était pas ces victoires de la musique. Je crois que c'est la première année où on voit pas sa tronche de momie en train de laisser couler ses regards libidineux sur ses chairs fraîches. Ça fait partie de cette manière dont...
Oui, c'est un peu la quintessence de la culture Jack Lang, des années Jack Lang, de cette volonté de promouvoir le rap et à travers elle, évidemment, les différentes minorités. C'est assez symbolique. Mais j'ai le sentiment, j'ai pas trouvé les chiffres d'audimat et d'audience. J'ai pas l'impression que ça fonctionne aussi bien qu'il y a quelques années. C'est un peu comme les Césars. On pourra peut-être dire un mot des Césars.
Qui ont lieu hier soir,
et qui, pendant longtemps, étaient une sorte de grande cérémonie assez familiale que tout le monde regardait pour voir les grands acteurs qu'on avait aimés, et qui maintenant est un peu devenu un entre-soi politico bien pensant, qui n'intéresse, à mon avis, plus grand monde. On se contente de jeter un œil un peu blasé sur le palmarès le lendemain. On voit des films que personne, que pas grand monde n'a vu, et puis on se navre des différentes déclarations plus ou moins sociales et politiques que se croient obligés de prononcer les super riches du monde du spectacle. Vous avez sans doute vu que l'hommage rendu à Brigitte Bardot a été hué.
Je ne l'ai pas vu, mais
par la salle.
Mais Twitter m'en a parlé.
C'est absolument, c'est misérable, quoi. Ces gens sont misérables. Ces gens sont, c'est une honte. Là, il y a tout. Il y a l'irrespect pour quelqu'un qui est décédé. Il y a l'irrespect pour quelqu'un qui, quoi qu'on en dise et quoi qu'on pense de ce qu'elle a fait après sa carrière, est une icône du cinéma français, qui est d'ailleurs le produit plutôt d'un cinéma de gauche, de cinéma de la nouvelle vague, qui était tout à fait intégré dans le sérail, hein. C'est parce que plus tard elle a eu des pensées ou des accointances qui dérangent ces beaux messieurs, que on se permet de huer une personne disparue aussi récemment. Enfin, c'est vraiment pitoyable quand on pense surtout que ces gens sont persuadés d'être les humanistes et le camp du bien. C'est toujours ça qui est surprenant. Dans le pire des cas, qu'ils se taisent. Ils sont pas obligés d'applaudir à tout rompre. Ils se taisent, ils applaudissent discrètement, et puis on passe à autre chose. Mais ce déballage pour essayer de montrer qu'eux sont moralement supérieurs, eux n'auraient pas frayé avec l'abominable extrême droite. Mais quelle honte, quelle lâcheté. C'est vraiment, rien que ça décrédibilise tout le reste de la soirée. C'est vraiment pathétique. Et surtout que personne n'ait rien dit. Qu'il n'y ait pas un acteur qui, en prenant le micro, ait défendu la mémoire de cette dame, ou appelé leurs collègues à un peu de décence. Ça montre l'effondrement total quand même de cette profession.
Mais vous l'avez vraiment regardé, la cérémonie des Césars?
Non, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu des extraits, suivi ça via les réseaux sociaux. Je m'inflige pas ce genre de choses.
Moi, j'ai un indice assez sûr de la manière dont évolue la notoriété et la réputation. C'est, je regarde si les gens de ligne de droite en parlent le lendemain, et Magda, ce matin, nous a fait un flash où il n'y avait pas un morceau de César. Ah, donc, c'est-à-dire,
c'est
voilà,
un signe.
Nous sommes censés informer les Français de ce qui est important. Eh bien, les Césars, on est royalement passé à côté et pas un appel d'auditeurs dans le chat des directs. Personne ne nous a réclamé de connaître le palmarès. On se moque éperdument de savoir qui est le premier espoir féminin, le premier espoir masculin, le prix du second rôle et l'accessoire du l'accessoire du maquillage.
C'est en effet, je pense que c'est assez général. Encore une fois, il faudra se pencher sur les chiffres d'audience, mais je ne crois pas que ce soit très très important. C'est vraiment devenu trop donneur de leçons, trop. Je me suis quand même penché sur la question. On n'y coupe pas la critique des programmes qui veulent supprimer les financements du CNC. Suivez mon regard. La défense de la culture subventionnée qui permet à tout le monde
d'avoir accès à des œuvres remarquables,
etc., etc. C'est fatigant, et puis les gens en ont marre. Les gens en ont marre de voir des ultra privilégiés leur donner des leçons. Je me souviens, il y a quelques années, c'était, je crois, au Golden Globes. Il y avait un acteur, son nom m'échappe, mais c'est un acteur anglais assez célèbre qui s'est fait connaître par la série Afterlife, et qui donc était maître de cérémonie de ces Golden Globes, et qui a commencé en disant. Écoutez, chers amis, si vous avez la chance de gagner, montez sur scène, remerciez votre papa, votre maman et votre producteur, mais s'il vous plaît, ne faites pas de discours politique, vous n'avez aucune légitimité à le faire, vous ne connaissez rien du monde réel, donc restez à votre place. Et j'avais trouvé ça vraiment excellent, et ce serait bien qu'on entende parfois aussi ce genre de discours chez nous, mais apparemment ce ne sera pas pour cette année.
C'était Léa Seydoux, fille d'un producteur richissime, qui expliquait qu'elle avait été élevée à l'école de la vie.
Oui, bien sûr. Ils ont tous beaucoup souffert. Ils ont fait tous des petits boulots alors qu'il y a une très grande majorité évidemment de fils d'eux. Moi, ce qui me choque pas particulièrement, qu'il y ait une reproduction sociale dans les métiers, ça. Mais faut pas jouer, faut pas tricher, quoi. Ils expliquent tous que voilà, ils se sont présentés sous des faux noms au casting pour pas bénéficier du bénéfice de leur nom de famille. Enfin, c'est risible. Non, ne jouez pas. Voilà, si vous êtes des bons acteurs, que vous soyez le fils d'un bon acteur, Claude Brasseur, Pierre Brasseur, etc., il n'y a pas de problème. Mais faut pas jouer les pauvres quand on est riche, si je puis dire.
Revenons sur les victoires de la musique. Là aussi, c'est assez amusant. Pendant longtemps, il y avait, de la part de la gauche, une espèce de tendresse pour tous les rappeurs qui étaient censés être tous des fils de prolos, prolos eux-mêmes. Et en fait, on se rend compte, notamment avec la Boss Lady, qui est le surnom de Théodora, qu'elle est née en Suisse, de parents congolais. Donc en fait, c'est une espèce de bourgeoisie internationale. Et cette jeune femme, avec aux sonorités afro-caribéennes, je crois qu'on ne le répétera jamais assez, a en fait bénéficié d'emblée non pas du tout de conditions de travail déplorables, mais au contraire d'un certain confort. Elle est d'emblée insérée dans un système qui la repère, qui la formate et qui la pousse. Autrement dit, il n'y a plus cette espèce de méritocratie stupéfiante de ces histoires que vous et moi, qui sommes un peu fleurs blonds, aimons bien, c'est-à-dire l'écrivain qui, à la force du poignet, tout en dépeçant des vaches, pond un chef-d'œuvre de littérature ouvrière, ou le Ionesco. J'ai appris en lisant un excellent livre sur lui dans la collection Qui suis-je aux éditions LIF, qu'il a été manutentionnaire chez Ripollin.
Ah oui, j'ignorais.
Voilà, donc le gars Ionesco, je veux dire, avant qu'il n'écrive La cantatrice chauve et qu'il ne devienne célèbre et qu'il ne sorte de la misère, raconte qu'il marchait dans la rue et qu'il est tombé sur 3 000 francs de l'époque. Hein, donc il a pu acheter une baguette et deux tomates. Et voilà, il en était réduit à la misère la plus totale. Et là, tous ces gens-là. La gauche les a appréciés et maintenant, en fait, la gauche va puiser dans les rangs de la petite, de la moyenne et même de la grande bourgeoisie parce que ce sont eux qui ont intégré ces codes.
Oui, et parce qu'en fait, en effet, oui, le rap a énormément évolué. Il y a eu ces histoires de gens, en effet, sortis de nulle part, des banlieues qui ont réussi, même s'il y a aussi eu beaucoup de mythologie parfois, même Joe Star et Cool Chain de Supreme Anthem ne sont pas n'ont pas tout à fait l'histoire qu'ils ont voulu raconter. Ils avaient leur entrée au bain douche, etc. C'était pas non plus des exclus totaux de la société, si je puis dire. Mais enfin, il y a eu quand même des parcours comme ça de progression sociale grâce au rap. Sauf que le rap s'est tellement massifié qu'il a fallu trouver autre chose. On peut pas attendre qu'il y ait des pouces qui se fassent de façon, je dirais, spontanée. Il faut créer des artistes. Et là, l'industrie de la musique s'est mise à produire elle-même, à choisir en effet ses représentants avec tous les critères de diversité, de physique, de différentes sonorités qui leur convenaient pour nourrir cette explosion du rap qui aujourd'hui, je pense, occupe 80 ou 90% de la production musicale et qui a totalement phagocyté la variété française. La variété française n'existe quasiment plus. Et maintenant, ce qu'écoute la majorité des gens et surtout des jeunes, qu'ils soient du 16e arrondissement ou de Villetaneuse, c'est du rap. Donc, il a fallu trouver, je dirais, de la chair à canon. Et on a en effet arrêté d'attendre que des talents se révèlent dans certaines banlieues pour aller piocher partout où on pouvait, quoi.
Voilà, et donc piocher, ça signifie piocher dans ceux qui ont compris que l'art est en fait un marché. Parce que
qui font maintenant une musique beaucoup plus aseptisée qu'avant. Maintenant, c'est vraiment du pur divertissement où on parle d'argent. Il y a plus tout le côté
chou.
Voilà, chou.
Effectivement, on a la peine.
La quintessence, quelque
voilà.
part.
Le venin révolutionnaire de chou apparaît moins.
On peut ne pas apprécier, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des rappeurs qui portaient un message de contestation sociale, un message plus politique. Ça c'est quasiment devenu un épiphénomène. Il y en a quasiment plus maintenant. C'est uniquement bling-bling, vroom-vroom, l'industrie s'est aussi débarrassée de ce qu'il pouvait y avoir de sulfureux et de contestataires dans le rap au profit de ces gens qui disent rien, en fait, quoi. Et ça, c'est un peu le point final, je pense, de ce mouvement qui se voulait, à la base, un mouvement quasiment révolutionnaire. Et il y a aussi un autre phénomène qui s'est greffé là-dessus, c'est que ce qu'on appelait un peu le gangsta rap, c'est-à-dire les rappeurs qui jouaient les gangsters. Alors, il y en avait certains qui étaient des vrais voyous, d'ailleurs, on en a quand même régulièrement qui finissent en prison. Mais il y a aussi beaucoup qui jouaient un jeu, sauf qu'ils ont été rattrapés par les vrais voyous qui ont commencé à les racketter. C'est le cas notamment à Marseille, avec la fameuse mafia, DZ Mafia, qui s'est mis à racketter tous les... enfin tous, en tout cas une partie des rappeurs qui se prétendaient être
des
super gangsters. Et là, il y a eu un peu un retour en arrière parce que la réalité leur a fait un peu peur. Et il y a notamment un rappeur assez connu qui s'appelle SCH qui a expliqué sur scène qu'en fait, il ne fallait pas le confondre avec son personnage, que lui était un très gentil garçon, etc.
Et que d'ailleurs, il avait porté plainte.
Parce qu'ils avaient quand même... ils l'avaient racketté et je crois qu'ils avaient même tiré sur un de ses collaborateurs. Donc là, le jeu... la récré était sifflée par les vrais voyous et les faux voyous ont regagné. Et maintenant, ils chantent plutôt tchouk tchouk tchouk. C'est plus passe-partout.
Tchoukou tchoukou
tchoukou. Tchoukou tchoukou tchoukou. Oui. Tchouk tchouk tchouk, c'est un peu trop simpliste. Oui, c'est vrai.
Tchouk tchouk tchouk, je pense que vous pensez à tchouk tchouk nougat, qui est l'une des insultes du capitaine Haddock.
Ah, c'est possible. C'est possible que ce soit une réminiscence de mes lectures de jeunesse.
De temps en temps, les auditeurs Radio Courtoisie se demandent ce que nous faisons entre deux émissions. Eh bien, nous avons lancé, Xavier et moi, un dictionnaire des onomatopées littéraires, et notamment donc tchouk tchouk nougat, et auquel on peut ajouter maintenant tchoukou tchoukou tchou, puisque vous êtes d'accord avec moi, il y a une qualité littéraire chez Théodora qui est à peu près l'équivalente de celle d'Aya Nakamura.
Il y a concurrence, je pense qu'on peut peut-être les mettre sur le même plan sans en vexer une ou l'autre, je pense.
Voilà, c'est moi Boss Lady, j'ai tout payé, nos crédits, trop congolaise quand je rate, ça te dit, Boukri, vas-y, Afriki. Je lisais un essai publié aux Belles Lettres par Monsieur Laurence sur la manière de traduire les poètes latins, et lui-même est un excellent traducteur de Pétrarque, et il nous faisait part d'un débat qui commence en fait au XVIIIe siècle sur la nécessité de traduire en respectant la rime.
Ah oui, oui.
Mais, qui m'a l'air, voilà, Boss oui. Lady, No Credit, Jrancetdi, Afriki, on sent qu'il y a une rime. Et, voilà. Et que pensez-vous de la nécessité de traduire la rime dans la translation de l'anglais au français, du latin au français, etc.?
Ben, je pense que c'est une grande une difficulté supplémentaire pour le traducteur. Après, peut-être que c'est si on conserve pas la rime, on est plus proche du texte original, mais on perd en poésie. Quoi.
Et voilà. Et donc Pierre Laurence, avec des exemples nourris des premières traductions médiévales des poètes latins jusqu'aux traductions les plus récentes du XXIe siècle, nous emmène dans une discussion absolument passionnante sur doit-on respecter le nombre, le rythme ou le sens, faut-il adopter un vers blanc, la scansion de l'alexandrin français avec notamment tous ces E muet qu'on est obligé de compter dans les pieds, je trouve qui est une hérésie absolue à mon sens. Je me suis rendu compte que grâce à Dieu, dès le 19e, il y avait des gens qui considéraient que c'était abominable et qu'évidemment il fallait adopter autre chose. Il y a aussi, j'ai appris l'existence de l'alexandrin octus, autrement dit l'alexandrin augmenté, qui ne fait pas 12 pieds mais 16 ou 17, et ça fait partie des choses qui sont licites. Mais vous êtes comme moi, Xavier.
Ah, je suis...
Si les gens nous avaient expliqué ça au collège et au lycée, on se serait mis poète, quoi.
Ah, ben facilement. Ouais, voilà, je pensais pas qu'on en arriverait, qu'on passerait de Théodora à la scansion des vers latins.
Ah mais... en tchou-tchou-tchou, voilà, pour moi, il y a un rythme iambique, c'est à peu
c'est
près
clair.
Net.
C'est vrai, ça m'avait pas frappé, mais maintenant que vous le soulignez, ça paraît tout à fait.
Le iambe, c'est tout à fait un temps long, un temps court, voilà, tchou-tchou-tchou. Voilà, donc on est véritable. Mais bon, indépendamment de ça, je trouve. Que ce qu'il y avait d'intéressant dans les tout premiers rap et même dans les flots de grands corps malades, donc dans le slam, c'est on sentait un travail de la langue en fait. Ils ne prétendaient pas réinventer la langue française comme Aya Nakamura et les crétins de députés, comment dire, Horizon, Modem et autres renaissances qui ont applaudi.
C'était encore du français. Là, oui. on s'en éloigne quand même de plus en plus. Quoi. C'est une recréation assez... assez avec des accords d'ailleurs grammaticaux plus qu'incertains. Oui, il y avait une volonté de manier la langue. D'ailleurs, c'était bon, y a eu, le premier MC Solar, ce genre de était fier de justement de leur utilisation, leur connaissance de la langue française. Maintenant, on a un peu renoncé à ça. Ouais.
Eh bien, merci mille fois Xavier Aymon, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et Jérémy Combe va nous apprendre comment bien se tenir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors, pourquoi ne pose-t-on pas les coudes sur la table ?
C'est une vraie question. Coude sur la table, coude sous la table. Voilà une règle que beaucoup connaissent, mais que peu savent vraiment expliquer. Depuis l'enfance, on l'entend, enlève tes coudes de la table. Cette remarque est souvent perçue comme autoritaire, voire arbitraire. Et pourtant, comme beaucoup de règles de savoir-vivre à la française, celle-ci n'est ni morale ni décorative. Elle est née d'une réalité très concrète. Le partage de l'espace. Pendant des siècles, les tables étaient étroites, longues et peu stables. On mangeait souvent très proches les uns des autres. Au Moyen-Âge, puis sous l'Ancien Régime, poser les coudes sur la table signifiait empiéter sur l'espace du voisin, risquer de renverser plats et boissons, adopter une posture fermée et dominatrice. À table, le corps devait rester contenu afin de préserver l'harmonie du groupe. Sous le règne de Louis XIV, toujours lui, la posture devient même un langage social. Le corps droit, les bras près du buste, signifie maîtrise et distinction. Dans les grandes maisons, on observait attentivement la façon dont un invité occupait l'espace. Un convive qui s'installait avec les coudes largement posés sur la table était perçu comme quelqu'un qui prenait trop de place, physiquement et symboliquement. On disait alors qu'il mangeait comme chez lui. Ce qui, paradoxalement, était très mal vu. À table, le confort personnel ne devait jamais primer sur le confort collectif. Concrètement, à la française, les avant-bras peuvent reposer légèrement, les coudes, eux, restent près du corps, le buste reste droit sans s'affaler, La posture doit permettre aux autres de manger à l'aise. On dit toujours qu'il doit y avoir un dictionnaire entre le dossier de votre chaise et votre dos et une feuille à papier entre votre ventre et la table. Cette règle n'interdit pas le relâchement, elle impose simplement la mesure. On se tient, mais on ne se fiche pas, on est à l'aise sans envahir. Aujourd'hui, les tables sont plus larges, vous me direz, les espaces plus confortables. Pourtant, la règle demeure, car son sens est toujours valable. Ne pas poser les coudes sur la table, c'est montrer que l'on respecte l'espace commun, qu'on contrôle son corps et qu'on pense aux autres. À table, le corps parle avant les mots. Cette règle ne concerne pas seulement les coudes, elle concerne la place que l'on prend. À table, comme en société, l'élégance consiste souvent à ne pas occuper tout l'espace disponible. Ne pas poser les coudes sur la table, ce n'est pas se contraindre, c'est rappeler qu'à table, le respect commence par le corps et par l'intention portée aux autres, Richard.
Eh bien, merci beaucoup, Jérémy Combe.
Merci à vous, à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse.
Et cette revue de presse, c'est bien sûr pour parler du numéro à kiosque actuellement de Valeurs Actuelles, avec Michaël Fronton, chef du service société chez Valeurs Actuelles. Bonjour Michaël.
Bonjour Richard.
Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de la dernière couverture qui est...
Jack Lang.
Et voilà. Après Epstein, c'était normal qu'on y arrive. Donc, vous lui consacrez un dossier de plusieurs pages où vous revenez avec joie, il faut bien le dire, avec bonheur, sur les hauts faits de Jack Lang.
Oui. Exactement, ben c'est vrai que c'est une idée qui nous a été donnée par l'actualité déjà, hein, puisque à la suite de l'affaire Epstein, le nom de Jack Lang, suite de sa fille Caroline, figure dans ses documents. Et donc, bon, ben, il y a eu, comment dire, on a conseillé à Jack Lang de quitter la présidence de l'Institut du Monde Arabe, où à 83 ans, il effectue un quatrième mandat. Et puis, bon, ça a été assez difficile d'obtenir de lui, en fait, qu'il parte. Et c'était déjà la preuve d'une personne qui, disons que, c'est toujours cru un petit peu à l'abri des règles, un peu au-dessus des lois. C'était déjà significatif. Ensuite, il y a l'idée que beaucoup de personnes savaient qu'il s'agissait de quelqu'un, d'un personnage un peu particulier, et que pour une raison X ou Y, ben, ça ne pouvait pas vraiment être dit. Des livres étaient sortis qui n'avaient pas eu l'audience qu'ils auraient pu avoir. Donc, il y avait cette idée qu'on retrouve dans d'autres dossiers que, voilà, beaucoup de personnes savaient et que malgré tout, il n'y avait pas de conséquences à cette vérité. Donc, c'était important de creuser ça. Et ensuite, bien sûr, pour nous, pour nos lecteurs, il y a le fait que Jack Lang est le symbole d'une classe politique, à la fois un camp politique et une époque, hein, la Mitterrandie, donc la gauche triomphante qui, se sachant appartenir vraiment au camp du bien, pensait n'avoir de compte à rendre à personne et pouvait se comporter... en tout, sur la question des mœurs, de l'argent, etc. Bref, faisant preuve d'une hypocrisie, on va dire, assez stupéfiante. Donc, c'est que tout ça réuni, c'était vraiment l'occasion d'y consacrer une couverture et un dossier particulier.
Alors, dans ce dossier, quel est l'article dont vous êtes le plus fier, le plus content, parce qu'il vous paraît être le mieux venu ou celui qui apporte les révélations les plus saignantes, si je puis me permettre ?
Il y a deux grands papiers. Donc, il y a vraiment un papier de notre collaborateur Yann Hamel qui revient un petit peu sur tout ce qu'on a pu publier, tout ce qu'on a pu dire à une époque, en fait, qui revient vraiment sur le parcours de Jack Lang, les gens qui ont essayé un petit peu d'alerter sur le personnage, d'attirer l'attention sur le personnage. Donc, c'est vraiment... on apprend quand même pas mal de choses, notamment qu'à l'époque, en 95, par exemple, quand la gauche se cherche un champion pour l'élection présidentielle et que Lionel Jospin ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait d'un champion, on pense à Jack Lang. Et là, il y a une levée de bouclier, en fait, au sein même de la gauche, en disant bah, « Jack Lang, c'est pas possible, en fait, ça peut pas être lui ». Et Jospin dit même « Si Jack se présente, je vais être forcé d'y aller pour des raisons morales ». Donc, c'est déjà quand même des choses qui sont significatives, que moi, je ne connaissais pas, ben, personnellement. Donc, il y a ce papier-là. Et ensuite, il y a le second papier de mon collègue Laurent Dandrieux, qui lui revient vraiment sur la figure de Jack Lang, notamment son long passage au ministère de la Culture, et tout ce qu'il a symbolisé, en fait, relativisme culturel et aussi relativisme moral, cette ambition de changer la vie, hein, le slogan mitterrandien qui s'est traduit avant tout par une spectaculaire amélioration de la vie des intéressés, à savoir Jack Lang et les autres. cette démocratisation de la culture qui s'est traduit par un entre-soi complètement délirant. Enfin, voilà, le papier, le second papier de Laurent Dandrieu est vraiment, on comprend vraiment beaucoup de choses en fait, de cette époque.
Donc, Jack Lang fait la couverture, mais comme d'habitude, il y a d'autres articles. Si vous dites en choisir un dans la partie société, puisque c'est votre partie.
Ben écoutez, en fait, surtout, je vais encore revenir sur la culture, mais il y a un excellent papier de Philippe Barthelet sur Gustave Thibon. On a fêté les 25 ans de son décès. Et quel autre papier? Vous me prenez un peu de cours. C'est vrai que j'ai surtout réfléchi à Jack Lang.
Tugdual aurait dû vous prévenir. J'essaie toujours que les gens lisent plus que le dossier dans Valeurs Actuelles.
Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on a fait paraître? Y a un bon papier, je vais le mettre un petit peu en avant, mais on a poursuivi bien sûr la question de Quentin. Donc,
bien sûr.
Il y a un papier sur lequel je reviens, en fait, je me plonge dans la tête d'un antifa et voilà, j'explique pourquoi ces jeunes personnes ont un goût particulier pour la violence et une façon de considérer leur adversaire, non pas comme un adversaire intellectuel, mais comme un ennemi à abattre. Voilà, des choses qui ne sont pas très surprenantes, mais c'est vrai que l'actualité les a remises au centre de nos préoccupations. Donc voilà, je consacre un papier à ça. Il y a le suivi, bien sûr, de l'affaire avec LFI. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un portrait de Charles Alloncle, il me semble, si je ne me trompe pas, avec la semaine dernière. Pardon, j'ai un petit doute, mais...
Mais effectivement, voilà, comme d'habitude, c'est une livraison de Valeurs Actuelles qui est bourrée de bons articles et qui, à chaque fois, prend le bon angle pour dénoncer la gauche, ses dérives et surtout tous ceux qui les ont supportés en prétendant qu'on ne pouvait rien dire. Car il fallait éviter de faire le jeu du Rassemblement National et des extrêmes. Mais merci beaucoup, Michaël Fronton, d'avoir été avec nous ce matin et bien sûr, à la semaine prochaine pour parler de tous les autres numéros qui vont se succéder.
Merci beaucoup, merci à vous.
Zone libre.
Et pour la zone libre, en attendant que Magda trouve des lapins mayennais ou peut-être des lézards ardéchois ou sait-on jamais, des antilopes nordiques, eh bien, je demande à Louis Rigaudière. Bonjour Louis.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ça va bien ce matin?
À merveille, merci, et vous?
Bah écoutez, ça va super, hein, voilà, je suis ravi de vous retrouver comme tous les vendredis matins, à la même heure. Alors, j'imagine que c'est à moi que vous donnez la parole en premier.
C'est ça.
Eh bien, écoutez, je vais commencer par une question simple. Est-ce que vous avez regardé les Césars hier?
Eh bien, non.
Eh bien, écoutez, moi non plus, ça tombe bien. Je pense que peu de monde ont regardé. On n'a pas encore les audiences, hein, mais c'est vrai que vous l'aviez noté avec Xavier Mans, qui l'a très bien analysé. Les audiences de ce genre d'événement ont tendance un petit peu à s'écrouler ces derniers temps. Et hier soir, bah écoutez, ça n'a pas manqué parce que alors il y avait beaucoup d'invités, notamment Jim Carrey, une star américaine. Et pendant un court moment, on a voulu rendre hommage à une vedette, hein, comme Brigitte Bardot, une grande actrice française qui nous a quittés récemment, avec un petit magnéto hommage qui retrace tous ses films et toute sa carrière. Sauf qu'à la fin de ce magnéto, on entend quelques petits cris bien sentis, du style raciste, etc. Et une foule qui se divise en deux, avec ceux qui huent d'un côté et ceux qui applaudissent de l'autre. Donc un petit moment assez gênant et assez lourd, que je vous propose d'écouter. Je m'excuse par avance pour la qualité du sonore, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver ce genre d'extrait, mais tendez bien l'oreille et vous entendrez une actrice, hein, j'imagine, gueuler raciste à Brigitte Bardot. Écoutez. Alors vous sentez qu'on se divise, la foule ne sait pas vraiment si elle doit applaudir ou huer.
Et on ne sait pas s'ils applaudissent celle qui a crié raciste ou si elle continue d'applaudir bébé.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est, on en est encore là, et avec ce petit milieu très protégé et très donneur de leçons, hein, comme le soulignait encore Xavier Aimant. Donc évidemment, alors pour éviter que mes mots dépassent ma pensée, je vais plutôt lire un extrait d'un excellent compte Twitter qui s'appelle Alain Weber, qui a écrit qu'il y a des éditos parfois bien pensés mais toujours très justes. Ils l'ont sifflé parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne lui arrivent pas à la cheville. Ils savent que dans 50 ans, on ne se souviendra pas d'eux. Personne ne collectionnera leurs photos, personne ne pleurera leur départ, alors que Brigitte Bardot restera à jamais gravée dans la légende du cinéma mondial. Leur comportement est à l'image de leur œuvre, pitoyable, sans classe et sans avenir. La France culturelle est devenue un vaste hôpital psychiatrique où les malades insultent les médecins. Nous en sommes arrivés là, à voir une poignée de sous-produits de la recentralisation parisienne bafouée. L'une de nos plus grandes stars. Et je rappelle évidemment que nos auditeurs évidemment, le savent également que Brigitte Bardot était une grande amie de Radio Courtoisie, et ça nous permet encore une fois de lui rendre hommage ce matin.
Voilà, et nous lui avons effectivement rendu hommage à plusieurs reprises, et bien sûr au moment de sa mort, en rappelant tous les moments qu'elle avait passés avec nous, et je vous conseille de réécouter les émissions d'Arnaud Guyot-Janin sur la question. Magda, alors.
Bon, bah, je vais être peut-être un peu moins solennelle, mais si vous voulez tant que je vous trouve une histoire malheureuse ou heureuse d'un petit animal, eh bien, je vais vous raconter une histoire qui date de ce mardi, une histoire qui était presque belle, puisque lors d'un match de football amateur disputé en Turquie ce week-end, un dégagement du gardien a été contrarié par un goéland qui a eu le malheur de se trouver au mauvais moment et au mauvais endroit. Et alors, heureusement pour lui, enfin pas heureusement pour lui, mais d'abord il a été percuté de plein fouet par la balle, forcément le volatile s'est écrasé sur le terrain. Et heureusement pour l'animal, le capitaine de l'Istanbul Yurdum Sport, on peut le citer, il s'appelle Gani Katan, il s'est empressé de lui prodiguer un massage cardiaque. Le footballeur expliquera ensuite avoir eu une formation minimale à ses gestes, avoir agi par réflexe, plus qu'autre chose, et entouré des autres acteurs du match, Gani Katan est arrivé à ses fins, le goéland a ouvert les yeux, il a même bu un petit peu d'eau, et il a été confié à l'équipe médicale présente pour le match, et le capitaine a même dit que c'était plus important que le championnat, et en fait il s'avère qu'à ce moment-là, bon, il avait été annoncé que l'oiseau avait été remis donc, à un centre spécialisé pour qu'il s'y refasse une petite vie et une petite santé. Mais sauf que visiblement, il n'y est jamais arrivé parce que bah, justement ce mardi, le mardi soir, un site turc a publié une photo du goéland dans une poubelle et il était mort. Et donc le cadavre a finalement été récupéré et s'est vu offrir une vraie sépulture digne de ce nom
voilà. Je crois qu'il y a à peu près tout ce que j'aime dans ce genre d'histoire, c'est-à-dire cette espèce de sensiblerie absolument horrible où on est en train de chialer sur une bête pendant que les gens sont en train de mourir dans la rue, après l'exploitation médiatique sucrée de la chose, et évidemment qui révèle les véritables dessous, en fait, mentaux de ceux qui s'affichent avec des goélands blessés pendant que les Kurdes sont en train d'être massacrés. Enfin, là, c'était où, d'ailleurs?
C'était en Turquie.
C'était en Turquie, donc voilà. Très bien. Donc
mais il y a une vidéo de ça, je crois. J'ai vu passer la vidéo de ce goéland qui se prend le...
Parce qu'autant moi, j'ai eu la photo du goéland de la poubelle, ouais, et puis la vidéo de sa magnifique sépulture.
Comment est-on certain qu'il s'agit du même goéland dans la poubelle et que celui qui a été navré d'un méchant coup de ballon sur le stade?
Peut-être que vu que c'est pris une balle à peu près 100 km/h de la face, il doit peut-être avoir des...
Il a un petit peu tendu, j'imagine, mais c'est pas une première, hein.
Uniquement un buzz de fausses informations d'avoir
une rumeur,
et qu'actuellement il est encore en train de voler sur les plaines de la Turquie, mais à mon avis non, c'était le même.
Non, mais malheureusement c'est déjà arrivé qu'il y ait des dégâts collatéraux comme ça, des animaux qui sont touchés dans des épreuves sportives.
Je pense qu'il faut interdire le sport.
D'ailleurs, vous savez reconnaître un goéland d'une mouette? Vous connaissez les différences là-dessus? Parce qu'en Normandie, quand notamment, on confond beaucoup. Les goélands sont plus grands et les goélands ont une tache rouge sur le bec.
D'accord.
Les mouettes n'en ont pas.
Okay.
Donc voilà, vous dormirez moins bête ce soir.
Oui, ça va, effectivement.
Eh bien, merci beaucoup, Louis Godière. Et c'est sur cette promesse solennelle que nous faisons à tous les auditeurs de Radio Courtoisie que je serai moins bête ce soir, que nous allons terminer cette zone libre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Et juste avant que vous ne partiez, Arnaud a un petit message pour vous.
Chers auditeurs, votre soutien financier est indispensable à la survie de Radio Courtoisie, vous le savez. Donc je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci beaucoup.
Et tout de suite, nous rediffusons l'entretien que nous avons eu ce matin avec Jean Gana sur les municipales à Segré et la manière dont le système politico-médiatique est en panique.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français, c'est avec Jean-Hugues Gana. Bonjour Jean-Hugues.
Bonjour Richard, comment allez-vous?
À merveille, merci, et vous-même?
Eh bien écoutez, très bien.
Eh bien merci beaucoup Jean-Hugues Gana, nous voulions juste être rassurés. Vous êtes candidat à Segré
Et on sent que le système médiatico-politique est absolument catastrophé. Pourquoi ? Parce que, à la suite d'une vidéo que vous avez fait montrant des Afghans devant un centre Leclerc, la justice s'est déchaînée contre vous. Et donc, vous êtes menacé des foudres républicaines pour avoir prononcé un discours de haine. Enfin, je rappelle que vous avez juste montré des Afghans, des immigrés afghans assis devant un centre Leclerc. Donc, on vous a interdit d'aller au centre Leclerc. Voilà, car la République n'est jamais avare de mesures intelligentes. Et donc là, les journalistes de Mediapart ont débarqué à Segré et se sont étonnés qu'un futur repris de justice, pour eux, votre condamnation ne fait aucun doute, soit capable de se lancer dans la course aux élections municipales. Et donc, on les sent traumatisés à l'idée que quelqu'un qui ait des casseroles puisse concourir pour devenir édile, comme s'il n'y avait jamais eu un seul antifa élu à l'Assemblée nationale.
Oui, tout à fait. Et je vois là d'ailleurs fleurir sur Internet une liste de mes condamnations ou alors de mes non-condamnations, mais présentées de sorte, vous voyez, à me faire passer pour quelqu'un d'extrêmement sulfureux. Et je tiens d'ailleurs à dire à mes adversaires que je les trouve un petit peu modérés et que je m'étonne de ne pas apparaître encore dans les dossiers Epstein ou voilà, pourquoi n'ont-ils pas sur moi des histoires de torture en Algérie à raconter ? Je les trouve un petit peu mesurés, je dois dire. Et non, mais c'est là, je pense que nos auditeurs connaissent ça, surtout les plus âgés. C'est la très classique diabolisation. Lorsque l'on est en panne d'arguments, on essaye d'inventer une menace qui n'existe pas forcément ou une menace qui n'existe que pour ceux dont les intérêts sont représentés et servis par les institutions.
Alors, il faut aussi dire que ceux qui vous reprochent vos non-condamnations ou même vos condamnations ont eux-mêmes défendu en permanence des gens qui, dans leur camp, ont été de véritables tortionnaires en Algérie ou en Indochine, et évidemment en trouvant que c'était très bien, puisque c'était à gauche. À ce gré, quelles sont les forces en présence ?
Alors, nous avons aujourd'hui deux listes centristes, une liste qui est étiquetée « Horizon », et qui est voilà, représentée par Geneviève Cocro, qui est donc la dame qui est en place depuis 25 ou 26 ans maintenant, d'abord comme première adjointe aux finances et comme maire désormais depuis 2020. Et nous avons également une liste centriste représentée par Raphaël de la Salmonière, qui a fait donc la fusion avec quelqu'un, et qui disent avoir sur leur liste apolitique, officiellement, des gens de droite et de gauche, etc., et qui nous servent, vous voyez, la soupe centriste assez classique, c'est-à-dire avoir une communication uniquement positive, mais pour du coup ne rien dénoncer, ne rien dire du tout. Voilà, donc je suis seul face au centre, disons, et la gauche ou l'extrême gauche ira voter pour l'une de ces deux listes.
Alors, à ce gré, la maire donc, qui est présente à la tête de la municipalité depuis 2020, vous l'avez rappelé, a-t-elle un bilan qui lui permet d'être positif à ce point-là, ou a-t-elle planqué sous le tapis un certain nombre de problèmes ?
Non, il semblerait qu'elle commence à s'inquiéter un petit peu, puisque jusqu'ici, elle ne faisait pas campagne, et là, je vois fleurir une page Facebook. Peu à peu, j'ai des échos comme quoi l'équipe en place se mettrait à faire campagne, parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas forcément aimée par les concitoyens et qu'elle ne pourrait pas, comme en 2020, être élue au premier tour à plus de 50%. Et pour cause, Segré, en fait, c'est une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est la réunion avec 14 villages en une commune nouvelle qui a fait passer Segré de petite commune de 8-9 000 habitants à une commune de plus de 17 000 qui fait de Segré, en termes de superficie, la huitième commune de France. Voilà, Segré en Anjou bleu, donc le regroupement de toutes ces communes en une seule commune nouvelle, fait que c'est la huitième commune de France en termes de superficie, avec évidemment tout ce qui en découle, à savoir des problèmes de gestion, des problèmes d'opacité, puisque tout est centralisé à Segré, ceci tue évidemment l'initiative locale, le bénévolat qui existe normalement dans les villages, que l'on met plus de 20-25 minutes à aller d'un bout à l'autre de la commune, et que ceci se fait évidemment au détriment du coup du bon fonctionnement et du bon sens. Et on nous avait vendu cette commune nouvelle comme un moyen, vous savez, c'était le super gadget. On va mutualiser tous les moyens et nous allons faire des économies, nous allons rationaliser le budget, nous allons diminuer les frais de fonctionnement. eh bien, le résultat est le suivant, c'est que les frais de fonctionnement ont augmenté de 16% en 6 ans, qu'un certain nombre des communes déléguées, c'est-à-dire des anciennes communes indépendantes qui ont rejoint ce grain en Anjou bleu, se retrouvent avec des mairies déléguées qui ne sont pas ouvertes ou trop peu ouvertes pour les gens qui souhaitent aller faire leurs papiers, enfin voilà, accéder aux services normaux d'une commune. Et puis, bien, ceci a énormément mécontenté les gens, car en réalité, ce regroupement, cette fusion de toutes les communes, tout cela s'est fait sans l'avis des citoyens. Donc, je suis le seul, d'ailleurs, à proposer aujourd'hui la défusion de la commune nouvelle. Donc, voilà, au bout de 3 ans, puisque nous allons gagner, je l'espère, je le pense, je le crois possible, au bout de 3 ans, à redresser la barre, à redresser les finances et à rationaliser un petit peu le fonctionnement, nous proposerons commune par commune un référendum pour sortir de la commune nouvelle. Et ceci s'est fait à plusieurs reprises. Ceci a eu lieu dans le Cantal récemment. Ça a eu lieu plus proche de chez nous, pas aux Herbiers. Quel est le nom de la commune ? Une commune, les Essarts en Vendée. Donc la défusion est possible. Ça ne pose pas de grands problèmes particuliers. Et chers auditeurs segréens ou d'ailleurs, si l'on vous raconte qu'une défusion amènerait des nuées de sauterelles, le déluge. Et le retour des heures les plus sombres, eh bien, ne les croyez pas, ça peut se passer très bien.
Et d'ailleurs, voilà, donc cette diffusion a été proposée effectivement dans plusieurs endroits, ça a été parfois voté, ça s'est accompli, et en fait, tout se passe comme avant. Merci beaucoup Jean-Hugues Gana, je rappelle que vous êtes candidat au municipal de Segré. Tout à l'heure, à 7h25, nous recevrons Marc Doyer pour parler de son procès contre Pfizer, mais revenons à vous et à la Vendée. Vous êtes lancé dans les municipales, parce que ce regroupement sur une immense commune vous paraissait aller à l'encontre en fait des intérêts locaux, parce que le centre est toujours béat d'admiration vers ce qui est de tout ce qui est technocratique. Quel est le moteur essentiel de votre engagement ?
Écoutez, il est double. D'abord, je réfléchissais à me présenter à Segré. Et la vidéo avec les Afghans m'a fait connaître ici, m'a donné une notoriété vraiment bien supérieure à ce qu'elle était auparavant, et m'a donc laissé espérer de parvenir à réunir les 69 noms qu'il faut pour se présenter à Segré en Anjou bleu. Voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, Segré en Anjou bleu, donc cette commune nouvelle, fusion avec 14 villages, nécessite pour se présenter que l'on ait 69 noms, 71 d'ailleurs très exactement, 69 minimum, 71 pour avoir un petit matelas de sécurité en cas de démission au conseil municipal. Et ceci est absolument scandaleux, car en réalité, lorsque vous avez 12 500 électeurs, il ne nous faudrait normalement que 35 à 37 noms pour nous présenter, pour nous monter une liste. Là, il nous en faut autant que pour la ville de Lyon ou pour la ville de Nantes, c'est déjà un déni de démocratie en soi. Bon. Et moi, lorsque la vidéo sur les Afghans a buzzé, que j'ai vu qu'elle recevait un immense soutien populaire, à Segré notamment, eh bien, des amis ont su me convaincre et m'ont dit « Écoute, il faut y aller, c'est le moment. Il y a quelque chose à susciter, un espoir à Segré. Voilà, la colère peut être transformée en quelque chose de plus positif. » Et donc, ça a été ma motivation première, la lutte contre l'immigration, parce que j'ai grandi à Segré et que j'ai vu Segré changer, j'ai vu son visage changer. Et comme je le dis souvent en plaisantant, je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais ça a sacrément bronzé à Segré. Et donc, ça a été la première motivation. Et puis, évidemment, le déni de démocratie que représente cette espèce de machin technocratique qu'est la commune nouvelle a été un deuxième facteur. Et c'est d'ailleurs la deuxième thématique que je porte le plus volontiers et qui reçoit d'ailleurs le plus d'écho chez nos concitoyens.
Cette vidéo a effectivement eu un grand succès, y compris policiers et judiciaires. Les gens de Mediapart ont interrogé les habitants de Segré en disant « N'êtes-vous pas effrayés à l'idée qu'un possible repris de justice prenne la tête de la ville ?» Est-ce que vraiment les gens de Segré sont catastrophés à l'idée que quelqu'un au conseil municipal soit un condamné ou possiblement condamné ?
C'est assez amusant parce que l'intégralité du reportage de Mediapart... En réalité, ils n'ont diffusé qu'un morceau sur les réseaux sociaux. Et dans l'intégralité du reportage, là, ils précisent qu'ils ont essayé d'interroger 22 personnes et que seulement 14 ont accepté de leur répondre. Bon, permettez-moi de penser que sur les 22 personnes, lorsqu'il y en a 14 qui refusent de répondre, c'est-à-dire 8, c'est sans doute des gens qui n'aiment pas trop Mediapart et qui penseraient plutôt comme moi. mais qui en effet ne tiennent pas, vous savez, comme dans les films, nous avons les moyens de vous faire parler, à avoir une grosse caméra à 8 cm du nez et à dire oui, en effet, je soutiens quelqu'un qui est poursuivi pour racisme. La question est totalement biaisée. C'est une méthode scandaleuse, à savoir que les gens de Mediapart sont allés voir des gens, parfois âgés, souvent âgés, sur le marché, en leur collant une caméra sous le nez, en leur disant « Est-ce que vous allez soutenir un candidat raciste et très méchant ?» Bon, évidemment, dans ces conditions-là, beaucoup de gens disent non, ou préfèrent ne pas répondre, ou disent de manière plus modérée « Écoutez, je ne sais pas si je vais le soutenir, mais il a droit de se présenter. » Parce que la question n'était même pas « Allez-vous le soutenir ?» C'était « Trouvez-vous normal qu'il se présente ?» Bon. Alors oui, Mediapart a fait ça et a laissé passer l'idée que les Segréens n'étaient pas du tout favorables à ce que je me présente. Bien écoutez, je crois que Mediapart ferait mieux de balayer devant sa porte parce qu'il y avait une liste de gauche qui a tenté de se présenter à Segré et qui n'est pas parvenue à réunir les 69, 71 noms pour avoir un petit matelas de sécurité nécessaire pour se présenter. Chose que j'ai réussi tout seul, et je suis le seul d'ailleurs dans l'opposition à être parvenu sans munir à qui que ce soit à faire une liste. Voilà, la seule autre candidate qui est parvenue à cela, c'est Madame Le Maire, c'est l'équipe sortante. Donc, ceci est bien la preuve que Mediapart se trompe, que beaucoup de gens sont tout à fait disposés à ce que non seulement je me présente, mais également à ce que j'exerce les responsabilités de première édile. Et je vais continuer à faire mentir Mediapart dans les semaines à venir.
Et dans les semaines à venir, vous serez évidemment sur les marchés. Là, l'accueil que vous recevez est satisfaisant et vous sentez que vous avez effectivement touché une corde sensible dans le cœur des Segréens.
Oui, je pense. D'abord, j'ai grandi à Segré. Hier, figurez-vous que je suis allé faire du porte-à-porte dans la rue dans laquelle j'ai grandi, la rue de Minguet. Et donc, j'ai été reconnu, j'ai été assez touché d'ailleurs par des petites dames retraitées qui m'ont dit « Ah, mais on se souvient de vous », etc. Elles n'avaient pas dû me voir depuis 20 ans ou 25 ans. J'ai reçu un accueil qui était assez positif. Nous recevons un accueil assez positif, que ce soit sur les marchés ou en porte-à-porte. Et beaucoup de gens sont en effet... assez scandalisé par le traitement médiatique qui est fait, parce que lorsqu'on me connaît, qu'on sait que je suis quelqu'un de plutôt jovial et débonnaire, me dépeindre en petit Goebbels ou en tortionnaire en puissance, si vous voulez, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc je crois que oui, on touche certaines cordes sensibles. Je crois que les scores que nous allons faire vont beaucoup surprendre nos adversaires, et je crois, et ce n'est pas de la langue de bois politicienne, qu'une victoire est possible.
Merci Jean-Luc Gada. Une dernière question, vous êtes revenu sur la constitution de la liste, donc trouver les 69-71 noms, ça s'est fait facilement, vous avez été aidé dans vos démarches?
Alors facilement, non, c'est quand même une gageure que de réunir autant de noms, mais disons que je n'ai pas rencontré les difficultés désespérées qu'ont pu rencontrer d'autres candidats qui les ont incités soit à jeter l'éponge, soit à faire l'alliance de la carpe et du lapin. J'ai été aidé par des amis, par des gens de Segré. Je tiens à en saluer quelques-uns, notamment dans les cités ouvrières à Segré, où en allant voir une dame qui m'a dit « Attendez, allez voir mes voisins ». Et en quelques heures de porte à porte et de voisin en voisin, on est parvenu à réunir parfois dans un même hameau de descendants de mineurs des nombres assez conséquents de colistiers de cette France des oubliés que la gauche méprise totalement tout en essayant de tenir un discours ouvriériste dépassé. Donc voilà, on a rencontré des difficultés parce que c'est long, parce que ça nécessite de faire des bornes, parce qu'il faut convaincre, mais ça n'a pas été une tentative désespérée.
Et avec un peu de chance, ce sera même une tentative réussie. Merci beaucoup Jean-Luc Gada, et bien sûr, on va suivre ce qui se passe à Segré. Je crois qu'un reportage est prévu ou même a déjà été réalisé par Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Merci à tous d'avoir suivi Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Nous allons évidemment vous redemander de nous aider, car pour réaliser cette émission et toutes celles qui vont suivre, on a besoin d'argent.
Effectivement Richard, donc pour tous vos dons en ligne, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et pour vos chèques, une seule adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et avec tout ce bel argent, on va réaliser d'excellentes émissions, notamment
tout à l'heure, dans un instant à 10h, Promenade des Flâneries au domaine de poésie, en direct avec Pascal Payen-Appenzeller, une émission consacrée au 50e anniversaire de la mort de Patrice de la Tour du Pin. À midi, en direct également, le libre journal de la crise, dirigé par Laurent-Arthur Duplessis. Trump empêchera-t-il la guerre mondiale ? À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon, émission du 16 janvier 2026, consacrée à Marie-Josette Liégeois, deuxième et dernière partie. À 17h30, Restons courtois, une émission dirigée en direct par Marc Baudrier et à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Deux sujets pour cette émission. Nouvelle-Calédonie, la France a-t-elle déjà perdu la partie et qui veut la mise au pas de nos réseaux sociaux? À 19h30 en direct toujours, le libre journal de Philippe Pichot-Bravard. En direct encore à 21h30, prolongation, émission dirigée par Stanislas Rigaud. Et puis nous terminons la soirée avec Chant Grégorien de Patrick Banken. Émission consacrée cette semaine au deuxième dimanche de Carême, office des ténèbres du Jeudi Saint. Le premier nocturne des extraits par les moines de Solesmes et les séminaristes de Saint-Sulpice. Un enregistrement exceptionnel durant la Semaine Sainte en 1962 et jamais commercialisé.
Eh bien, merci mille fois Arnaud, et je ne vous dis pas à demain, car demain c'est lundi. Non, c'est samedi, juste avant, je vous dis à lundi.
À lundi.